Encore un pas et nous entrons dans le sanctuaire, l'appartement du roi. Deux dignitaires principaux y président, et chacun d'eux a sous ses ordres une centaine de subordonnés. D'un côté, le grand chambellan, avec les premiers gentilshommes de la chambre, avec les pages de la chambre, leurs gouverneurs et précepteurs, avec les huissiers de l'antichambre, avec les quatre premiers valets de chambre aux ordinaires, avec les 16 valets de chambre par quartier, avec les porte-manteaux ordinaires et par quartier, avec les barbiers, tapissiers, horlogers, garçons et porteurs. De l'autre côté, le grand maître de la garde-robe, avec les maîtres de la garde-robe, avec les valets de la garde-robe aux ordinaires et par quartier, avec le porte-malle, le porte-maille, les tailleurs, les lavandiers, l'empeseur et les garçons ordinaires, avec les gentilshommes ordinaires, les huissiers et secrétaires de cabinet, en tout 198 personnes, pour le service intime, comme autant d'ustensiles domestiques pour tous les besoins de la personne ou de meubles somptueux pour la décoration de l'appartement. Il y en a pour aller chercher le maille et les boules, pour tenir le manteau et la canne, pour peigner le roi et l'essuyer au bain, pour commander les mulets qui transportent son lit, pour gouverner les levrettes de sa chambre, pour lui plier, passer et nouer sa cravate, pour enlever et rapporter sa chaise percée. Oui, sous Louis XVI, il y avait deux porte-chaises du roi qui, tous les matins, en habit de velours, l'épée au côté, venaient vérifier et vider, s'il y avait lieu, l'objet de leur fonction. Cette charge valait à chacun d'eux 20 000 livres par an. Il y en a surtout dont l'office est d'être là et de remplir un coin qui ne doit pas rester vide. Certainement pour le port et l'aisance, ils sont les premiers de tous. Si proches du maître, ils y sont obligés. Dans un tel voisinage, leur tenue ne doit pas faire disparate. Telle est la maison du roi. Et je n'ai décrit qu'une de ses résidences, il y en a une douzaine. Outre Versailles, grandes ou petites, Marly, les deux Trianon, la Muette, Meudon, Choisy, Saint-Hubert, Saint-Germain, Fontainebleau, Compiègne, Saint-Cloud, Rambouillet, sans compter le Louvre, les Tuileries et Chambord, avec leurs parcs et territoires de chasse, avec leurs gouverneurs, inspecteurs, contrôleurs, concierges, fontainiers, jardiniers, balayeurs, frotteurs, taupiers, gruyers, gardes à cheval et à pied, plus de 1000 personnes. Naturellement, il entretient, plante et bâtit. À cela, il dépense 3 ou 4 millions par année. Naturellement aussi, il répare et renouvelle ses ameublements en 1778, qui est une année moyenne. Cela coûte 1 936 853 livres. À Choisy, en 1780, outre les distributions, il y a 16 tables, 345 couverts. À Saint-Cloud, en 1785, il y a 26 tables. Un voyage à Marly de 21 jours est un objet de 120 000 livres de dépenses extraordinaires. Le voyage à Fontainebleau a coûté jusqu'à 400 000 et 500 000 livres. En moyenne, des déplacements exigent par an 500 000 et davantage. Pour achever de concevoir ce prodigieux attirail, songez que des artisans et marchands de tous les corps d'État sont obligés, par leur privilège, de suivre la cour dans ses voyages afin de la fournir sur place. On dirait d'une cour d'Orient qui, pour se mouvoir, entraîne tout le monde. Quand elle va s'ébranler, il faut, si l'on veut passer, prendre la poste d'avance. Au total, près de 4000 personnes pour la maison civile du roi, 9000 à 10000 pour sa maison militaire, 2000 au moins pour celle de ses proches. En tout, près de 15000 personnes avec une dépense de 40 à 45 millions, qui en vaudrait le double aujourd'hui et qui sont alors le dixième du revenu public. Voilà la scène centrale du décor monarchique. Si grande et si dispendieuse qu'elle soit, elle n'est que proportionnée à son usage, depuis que la cour est une institution publique et que l'aristocratie, occupée à vide, s'emploie à remplir le salon du roi.